Orchamps. Orchamps, aujourd'hui, avec Alain Corbin. Alain Corbin, vous êtes historien, vous avez inventé et défriché des terrains disciplinaires qui n'étaient pas évoqués dans l'histoire contemporaine. Je rappelle que vous avez surgi sur la scène intellectuelle avec un livre qui est réédité sans arrêt, qui s'intitule « Les filles de noces, misère sexuelle et prostitution au XIXe siècle ». Et puis ensuite, autre très grand succès, le miasme et la jonquille, l'odorat et l'imaginaire social. Et ensuite, vous avez continué sur votre lancée de travail sur les imaginaires. Il y a eu le territoire du vide, le village des cannibales, les cloches de la terre, l'homme dans le paysage, l'histoire du corps, l'harmonie des plaisirs, la douceur de l'ombre avec l'arbre source d'émotion. Et puis, il y a eu vos souvenirs d'enfance sous le titre « Sois sage, c'est la guerre ». Et le dernier livre est une véritable merveille. Nous allons en parler aujourd'hui. Il s'intitule « Histoire du silence, de la Renaissance à nos jours ». Et d'abord, Alain Corbin, une question un peu personnelle. Vous dites que vous êtes un dinosaure. Vous avez publié votre premier ouvrage en 1978. Vous avez participé ô combien activement de l'histoire des mentalités qui a révolutionné même la perception de l'histoire. Est-ce que au début, quand vous avez publié vos premiers travaux, vous avez été considéré comme quelqu'un de dérangeant ou plutôt quelqu'un d'audacieux?
Non, quelqu'un de très classique, parce que mon premier livre était une grosse thèse de 1600 pages sur les paysans du Limousin au XIXe siècle. Ça, c'était tout à fait dans la norme. C'était un passeport, en quelque sorte. J'y avais pris un certain plaisir, d'ailleurs, parce que le Limousin est une région assez, à la fois assez dure, mais assez grandiose.
Et ensuite, alors, qu'est-ce qui vous a affranchi des règles universitaires? En tout cas, pas au niveau du parcours et de la carrière, mais au niveau des thématiques.
Ah oui, ben la thématique, c'était assez simple. Les Limousins migrants qui ont bâti Paris sous le Second Empire, ils étaient environ 60 000. Ils avaient quitté leurs femmes pendant 10 mois, parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et on avait beau dire en Limousin qu'ils étaient d'une fidélité irréfragable, je m'étais aperçu qu'ils étaient logés dans les quartiers où étaient logés aussi, où opéraient, disons, les prostituées. Donc, je m'étais dit, tiens, voilà un sujet, et d'autant plus un sujet qu'il n'était pas encore abordé en France. Il était abordé aux États-Unis, il n'était pas encore abordé en France dans la bibliographie universelle. Annuel de l'histoire de France, le mot prostitution ne figurait pas. Donc voilà, je suis passé tranquillement, j'allais dire, des migrants limousins aux prostituées.
Oui, mais comment vous êtes passé à l'histoire de l'odorat à partir des prostituées? Vous me direz, elles utilisaient beaucoup le parfum comme arme de séduction.
Oh non,
mais ça suffit peut-être pas.
Non, c'était pas le parfum. C'est que en étudiant les prostituées, je m'étais aperçu justement que dans ces quartiers au début du 19e, au moment des épidémies de choléra, la nuance olfactive, si vous voulez, l'odeur, avait une grande importance parce que les médecins s'imaginaient que c'était le vent dans la perspective hippocratique, c'est-à-dire de l'antique, que c'était le vent, l'eau, etc., qui transmettait les maladies et que le plus grave et le plus terrible, c'était la puanteur, l'ordure, etc. Donc, ce problème fort à l'époque, essentiel même, m'avait assez logiquement fait passer de cet audit de la cité, et pas la cité que nous connaissons aujourd'hui, de l'île de la cité de l'autrefois, de cet audit au moment du choléra à cette peur du marais humain que constituait le peuple qui transmettait les maladies.
Ça, c'était le miasme, mais pas la jonquille.
Oui, ah ben la jonquille, c'est justement, c'était le désir des élites, hein, de se déodoriser, de se distinguer. Et parmi ces formes de distinction, il y avait évidemment le voyage sanitaire vers des hauteurs, bon, mis à la mode par Rousseau. Il ne s'agit pas de la haute montagne encore la plupart du temps, mais de la moyenne montagne, oui.
Donc, en fait, vous avez été un historien qui, dès le début, a croisé différentes sources. la littérature, l'anthropologie, les sources anonymes, parce qu'évidemment, les gens que vous contribuez à restituer, ce sont des gens qui, par définition, n'ont pas pu prendre la parole et dont vous n'avez finalement l'histoire de vie que quelquefois par des sources policières.
Oui, alors là, c'est terrible. Ça, c'est de penser que 99% de la population du 19e siècle, qui n'est pas très éloigné de nous, est complètement disparu sans laisser aucune trace. Ça, c'est une source d'angoisse pour l'historien, d'être incapable de trouver les sentiments, les émotions des gens qui appartenaient au peuple, en fait. Ça n'a pas empêché les historiens d'en parler, parce que les historiens ne craignent guère l'imposture. Hein. Donc, on a largement parlé de tout cela, des émotions populaires, mais en fait, il faut vraiment de l'écriture de soi, il faut du journal intime, il faut de la correspondance, il faut voir de l'autobiographie, ou avoir été mêlé à une affaire judiciaire, justement, pour qu'on commence à parler de l'individu et à commencer d'imaginer ses sensations, ses émotions, c'est la manière dont il accueille le monde, en quelque sorte. Mais je trouve que utiliser uniquement les archives judiciaires, c'est bien de les utiliser, mais les utiliser uniquement, c'est considérer simplement une fraction de la population qui est quand même très minoritaire, celle qui a commis un crime ou un fort délit.
Alors vous avez, Alain Corbin, une écriture très particulière, très sensuelle, je trouve, très précise et rigoureuse. Et quand on lit vos bouquins, on a l'impression d'être avec les gens dont vous ressuscitez finalement la vie. Est-ce que vous mettez une part de vous-même dans l'écriture de vos livres ?
Ah, ça, je ne sais pas. C'est très difficile à dire, ça, parce qu'on écrit spontanément. Hein. Moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est de faire un voyage dans le passé, c'est-à-dire de retrouver des gens différents. Donc, il faut de l'imagination. C'est ce que disait Lucien Febvre. C'est quand même la qualité première de l'historien, l'imagination. Et puis aussi, éviter l'indignation, c'est-à-dire éviter tout ce qui se réfère au présent, c'est-à-dire en comparaison avec les normes éthiques du présent. Donc, ce grand voyage dans l'histoire, je crois que j'ai fait toute ma vie, parce que j'étais pas un très bon élève dans le secondaire, mais j'étais toujours le meilleur en histoire.
Mais vous nous racontez des histoires. Vous nous racontez des histoires.
Je me suis jamais posé de questions. Quoi faire dans la vie? Ça a été tout droit, quoi. L'histoire. J'aimais bien lire dès la 5e, 6e, le manuel d'histoire, etc., quoi. Donc, je ne peux pas dire si je m'aimais beaucoup dans ce que j'ai fait. Mais avec
l'histoire, c'est s'oublier aussi pour raconter l'histoire des autres.
Ben voilà. Mais avec le retour, sur soi, c'est-à-dire avec l'âge, je m'aperçois que l'enfance a quand même joué un grand rôle dans le choix des matières et des sujets, parce que il vaut mieux connaître ce dont on parle. On m'avait donné de faire une thèse de troisième cycle, ça s'appelait, autrefois, en interrogeant des Limousins. J'avais une centaine de paysans et une centaine d'ouvriers. Et comme j'avais l'habitude des paysans depuis mon enfance, j'étais très à l'aise lorsque j'ai été interviewer les paysans. Mais lorsque j'ai été interviewer les ouvriers, que je ne connaissais absolument pas ce monde, j'avais peur. Tout simplement peur de frapper et d'être en contact avec des ouvriers. Il s'agissait d'ouvriers qui étaient nés vers 1900, hein, qui avaient voté en 36.
Alors, dans la dernière partie, qui n'est pas terminée, de votre œuvre, Alain Corbin, on a l'impression que vous avez une sorte de côté métaphysique, de plus en plus assumé. L'avant-dernier livre qui était consacré à l'arbre était déjà une merveille, et ce dernier est consacré au silence. Est-ce à dire que vous voulez faire une sorte de retrait supplémentaire par rapport au bruit du monde que vous avez ausculté ?
Oui, peut-être. C'est-à-dire que j'ai passé une enfance dans le silence. Hein. Le silence dans le bocage, c'est le silence. Silence dans les institutions catholiques dans lesquelles on m'a emmené pour faire mes études. C'était beaucoup de silence. Et ensuite, par les lectures, j'aimais bien, je ne sais pas si c'est particulier, je pense pas que ce soit particulier, mais il y a un certain nombre de, je remarquais d'ailleurs de nos contemporains qui, quand ils tombent sur des notations sur le silence ou des êtres de silence, etc., sont particulièrement attirés. Donc, je me suis constitué comme ça au fil des années parce que j'avais proposé ça comme sujet aux étudiants il y a 20 ans, l'histoire du silence, ou 30 ans même, ça, j'avais trouvé aucun volontaire, si vous voulez. Ils avaient sans doute peur de constituer une thèse qui n'allait pas leur ouvrir une grande carrière. Hein. Mais je trouve que dans notre société, je sens qu'il y a des gens qui aiment bien s'arrêter. Cette pause, en quelque sorte, dans la vie d'aujourd'hui que permet le silence.
Alors, qu'est-ce que le silence ? Vous l'auscultez de différentes manières, à la fois évidemment religieuses, métaphysique, vous l'auscultez aussi en relisant certains textes de la littérature qui parlent admirablement du silence. Aujourd'hui, on vit dans une société où le silence n'est plus permis, le silence n'est plus tolérable, le silence est une déchirure du temps, c'est
oui.
Une impossibilité improductive.
Tout simplement parce que les structures mêmes du temps se sont modifiées. Et puis, avec d'année en année, hein, il y a eu la grande explosion, si vous voulez, sans vouloir faire de jeu de mots, atomique, qui a changé beaucoup de choses dans la conception de l'espace et du temps. Et puis, aujourd'hui, la numération, les nanotechnologies, que sais-je, l'instantanéité, surtout, la simultanéité des informations, le fait... Bon, tout ça va contre... ce temps qui était un temps de relative lenteur, qui permet d'ailleurs, qui favorise le silence. Là. Il y a un lien entre la solitude, la lenteur et le silence. Hein. Donc, il n'est pas étonnant que l'accélération des rythmes et des rythmes des transports aussi, tout ça a joué contre le silence. Et le silence fait peur maintenant. Je l'ai remarqué chez les jeunes enfants. Ils ont peur du silence. C'est à la fois l'ennui, mais c'est surtout qu'ils n'ont pas eu de discipline du silence, ils n'ont pas eu l'habitude de rester silencieux pendant de longues périodes, de rêver en quelque sorte dans le silence, alors ils se précipitent sur un jeu vidéo, sur un écran.
Mais à l'école, autrefois, et nous faisons, vous et moi, partie d'une génération, quand on était à l'école, il y avait impossibilité de parler.
Ben oui.
Maintenant... On encourage les éducateurs à laisser s'exprimer tout le temps, les enfants.
Oui, c'est à partir des années 70, ça. C'est à partir des années 70, ce retournement, où il faut que les enfants s'expriment. Et à partir du moment où ils se sont exprimés, ils s'expriment, où ils créent des travaux de groupe, il est évident que l'intériorité, le retour sur soi, c'est plus difficile.
Alors, qu'est-ce que le silence ? Le silence est-il un retrait de soi vers soi ?
Oui. C'est-à-dire que le silence n'est pas seulement l'absence de bruit. Aujourd'hui, on parle du silence, d'une quête du silence, d'un désir du silence. C'est simplement un désir de ne pas subir du tapage. C'est pour ça qu'on va dans un hôtel, relais du silence, qu'on va... Bon, c'est ne pas subir...
On va même dans les monastères, paraît-il. C'est la dernière mode. On va beaucoup dans les monastères pour justement faire des cures de silence.
Voilà. Alors, le silence, c'est d'abord une attitude. C'est-à-dire, c'est une plongée dans l'intérieur de soi qui permet la méditation, qui est l'introspection, qui permet pour les catholiques ou pour les membres des différentes croyances l'oraison, c'est-à-dire l'écoute de Dieu et la prière, Tout cela dans un monde de lenteur, dans un environnement qui peut être un environnement intime comme la chambre, la nature, et puis toutes ces techniques que vous évoquez, telles que les monastères, évidemment.
Le silence est-il plein de bruit? Parce que quand on lit votre bouquin, on s'aperçoit que le silence n'est pas ce qu'on imagine.
C'est-à-dire qu'à partir de l'avènement de l'âme sensible, disons de Rousseau, au milieu du 18e, fin 18e siècle, le code du sublime, auparavant, on cherchait surtout ce qui était beau. Puis voilà qu'on se met à quêter ce qui est sublime, la montagne, la mer, le désert, la grande forêt, etc. Et on y trouve du silence, mais un silence qui n'est plus le silence du XVIIe siècle, par exemple, parce que c'est une histoire du silence, on pourrait faire une archéologie du silence, ce n'est plus le silence du XVIIe siècle, le silence de la trappe, le silence de l'escurial, etc. C'est le silence de la nature. Or, pour goûter le silence de la nature, qui est très une quête vraiment très forte chez les romantiques, il faut être dans un environnement de tout petit bruit. Ce sont de tout petits bruits qui révèlent le silence, et c'est particulièrement sensible dans les descriptions de l'époque du désert, du grand désert, du Sahara. Le Sahara, c'est un monde de silence, et pourtant Fromentin, le peintre orientaliste et l'écrivain, nous dit que ce monde de silence très fort, plein de transcendance, est en même temps un monde qui possède mille petits bruits. Et ça, c'est les Américains, ceux d'un grand mot qu'on appelle les transcendantalistes, mais enfin je pense à David Thoreau, dont on lit quand même assez largement Walden aujourd'hui. Hein.
Oui, il revient à la mode avec son oui. Initiation au silence et sa thérapie, voilà. En quelque sorte, du silence.
Dans son journal, surtout.
Oui, qui est génial.
Je préfère son journal à ses autres œuvres. Enfin, ça, c'est un avis personnel. Et dans son journal, il est en quête permanente du silence. Et ce silence, il l'a bien compris, dans la nature, dans les petits bois qui sont... C'est pas un grand explorateur. Hein. Enfin, il avait voyagé néanmoins dans les forêts du Maine, des choses comme ça. Ou dans le Cap Cod, mais c'est révélé par des tout petits messages sonores, un bruit de feuilles, un bruit d'écureuil, un bruit de moustique, un bruit de batracien, etc. C'est ça qui révèle, mais c'est un silence donc qui est différent du silence recherché pour être à l'écoute de Dieu au XVIIe siècle. Donc c'est un peu difficile de s'imaginer qu'il y a, comme je le répète, une archéologie du silence. Et quand Chateaubriand est envoyé par son confesseur à Soligny-la-Trappe dans l'Orne, chez l'abbé de Rancé qui avait réformé et imposé le silence complet à la Trappe, ce pauvre Chateaubriand qui est un romantique a du mal à comprendre, lui qui est un homme du 19e, fin 18e, qui a été mêlé à la Révolution, qui était en Amérique, en Angleterre, etc. Il a du mal à comprendre le silence, le recueillement de l'abbé de Rancé qui lui semble exagéré et terrible. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans son ouvrage « Vie de Rancé ». Thank you.
Nous allons écouter la voix d'Yves Bonnefoy. C'était sur France Culture au micro d'André Velter. C'était le 6 octobre 2001. Il va évoquer la notion physique et évidente de beauté, la ferveur avec laquelle il la célèbre dans ses poèmes.
Dans ce livre-là, s'il y a cette rencontre de la beauté, il y a aussi cet assiègement de cette idée par un fond qui la dénie. La beauté, pour moi, dans ce texte, n'est pas une valeur qui se propose comme orientation des comportements ou des pensées, c'est une évidence physique qui, dans le poème intitulé ainsi, « Que ce monde demeure », est comme un constat. Il se trouve que le monde est beau. Et nous avons à vivre avec cette évidence, aussi énigmatique soit-elle, aussi dangereuse à prendre en charge. Ce qu'il faut, ce n'est pas la dénier, ce qui nous ferait faire l'économie d'un problème bien dangereusement, c'est d'essayer de la réintégrer à une lucidité, à un acte d'existence où elle perd sa nocivité, s'il y en a une, en se reclassant, en se resituant. Donc il faut, me semble-t-il, l'affronter. Et en effet, c'est bien ce qui induit certains des textes que j'ai écrits. Mon passé est empli de souvenirs, de moments de la réalité naturelle qui m'ont comblé par cette sorte de mystérieuse beauté.
Alors, Yves Bonnefoy, par son travail poétique depuis des décennies, rend hommage à cette beauté. Vous le citez à l'intérieur de votre dernier ouvrage consacré au silence, Alain Corbin. Et en quelque sorte, le lecteur est invité à se demander si le silence n'est pas une approche désespérée de la beauté.
Écoutez, moi j'ai une énorme admiration pour Yves Bonnefoy, qui m'est arrivé de citer effectivement à plusieurs reprises dans les travaux que j'ai pu faire sur l'arbre, l'herbe, que sais-je encore. C'est quelqu'un dont l'œuvre est vraiment à méditer. Alors, en ce qui concerne la beauté, oui, bon, j'adhère, mais il y a aussi quelque chose chez Yves Bonnefoy dont il ne parle pas là, c'est la référence à l'enfance, hein, qui est assez forte chez lui. Je pense à son livre intitulé « Lieux d'herbe », par exemple. Cette beauté est en même temps non pas tant réminiscence que choc mémoratif, c'est-à-dire qui rend présent un passé qu'on pouvait penser révolu et qui George Eliot, la romancière anglaise, a commencé, si vous voulez, je pense, à souligner cela. Elle a inspiré Proust, qui l'avait lu dans son enfance à propos de la petite Madeleine. Donc, dans la beauté, il y a aussi peut-être cet entremêlement d'un code, le code esthétique. Et Yves Bonnefoy a merveilleusement à ce propos décrit le locus amenus, le lieu merveilleux des anciens, de Théocrite ou de Virgile. Il y a de la réminiscence et du choc mémoratif qui sont mêlés. Mais cette beauté, pour reprendre des poncifs du XVIIIe, est différente, cette appréciation de la beauté est différente du choc du sublime, du choc des tempêtes, du choc des orages, du choc des tourmentes ou des simoons. Hein.
On ne parvient jamais au silence. Parce qu'on cherche toujours le silence.
Oui, dans ce moment, on n'y parvient pas, mais il paraît que ceux qui... Je n'ai pas cette expérience, hein, mais ceux qui ont été dans des caissons dans lesquels on a enlevé tout bruit possible, ont éprouvé des choses assez désagréables, dit-on, parce qu'à ce moment-là, on n'entend plus que son propre corps. C'est-à-dire qu'on entend malgré tout le battement de ses artères, le battement du cœur, des choses comme ça. Donc le silence, à ce niveau, est impossible, effectivement. Mais la nuit le favorise, et les mystiques, là, ont beaucoup souligné cela.
Que vous est-il arrivé, Alain Corbin, un jour dans une petite salle d'un musée de Harvard quand vous êtes trouvé seul avec des tableaux de Cézanne.
Oui, je comprends pas d'ailleurs comment on pouvait laisser passer un individu seul dans une. Il devait y avoir quand même quelque part une caméra. Je suppose parce que j'aurais pu déchirer la totalité des toiles que j'avais là. Mais c'était une chance par rapport à la visite du musée d'aujourd'hui hein, où il y a la foule où on ne peut pas écouter le silence des toiles. Voilà. Alors, le silence des toiles, c'était quelque chose que Marc Fumaroli a beaucoup souligné à propos du XVIIe siècle, mais je l'ai ressenti à propos de toiles de Cézanne. Bon, j'avais feuilleté comme tout le monde, hein, j'avais regardé des reproductions de ces fameuses pommes ou de ces naturmorts, je sais pas comment dire, j'en avais vu quelques-unes dans les musées, mais là, dans cette solitude, je suis resté longtemps. Parce que justement, j'étais tranquille, seul, en silence, et je crois que le silence de la toile pouvait être plus facilement perçu dans cette chose-là. C'est une des expériences de silence que j'ai eues forte, ainsi que, moi qui suis du bocage, le silence des vaches. D'une vache qui vient vous voir un matin à 5-6 heures, je me souviens précis, au bord d'une barrière et qui vous regarde. En silence, je me souviens un jour où j'étais obligé d'attendre un autocar à peu près, en rase campagne, pendant un quart d'heure, et cette vache m'a regardé pendant ce quart d'heure où j'attendais l'autocar, et on s'est regardé en silence, et j'ai compris par la suite ce que disent certains écrivains que j'ai cités, qui disent que l'animal est un porteur de silence, est un bloc de silence.
Ben merci Alain Corbin, on va faire silence, une petite minute de silence. Et d'ailleurs nous on fait silence, c'est la fin de la grille d'été. Je rappelle le livre d'Alain Corbin, Histoire du silence, de la Renaissance à nos jours. Il est publié aux éditions Albin Michel. Je voudrais remercier toute l'équipe de Hors-Champ ainsi que Brigitte Bouvier et Catherine Parent. Merci aussi à Philippe Palares, Olivier Guérin, Corinne Amard, Élodie Royer, Samuel Bernard. Vous écoutez France Culture.